Bonjour à toutes et à tous, et je vais accueillir Clara Schmelk qui remplace Alexandre Michelin cette semaine. Bonjour Clara.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Donc on continue avec maintenant ce désormais neuvième épisode du podcast hebdomadaire sur le Tech Clash. On a eu donc ce moment un petit peu essentiel qui a été ces 2 jours d'audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis, avec une prestation assez bien préparée. On va y revenir. Et le premier lien, en fait, qu'on partage avec vous, c'est un lien du magazine Wired qui reprend de façon très exhaustive toutes les fois où Mark Zuckerberg n'a pas complètement répondu aux questions qui lui étaient posées et a dit oui, il faut que je vous revienne avec un complément d'information. Et il y en a, je crois, 43 de ces moments. Donc c'est assez intéressant. Je voulais voir, Clara, comment toi tu as perçu et comment en fait les médias français et européens ont perçu cette prestation de Mark Zuckerberg.
Alors, les médias français ont été dans l'ensemble assez durs, je trouve, avec Mark Zuckerberg, puisqu'il est plutôt ressorti dans la presse, du moins française, qu'il n'avait pas vraiment répondu aux questions, qu'il avait presque systématiquement botté en touche, qu'il n'était pas vraiment rompu à l'exercice et que finalement, il voulait un peu maintenir un statu quo puis mettre sous le tapis les vrais problèmes. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était plutôt pas mal débrouillé. Tout d'abord, il était assez respectueux de ses interlocuteurs. Il a essayé tant bien que mal de leur expliquer comment fonctionnait Facebook. On a eu quand même des petits moments assez rigolos quand certains sénateurs lui posaient des questions, on va dire, de grands débutants sur l'utilisation de
On
Facebook.
n'était pas loin du mulot, effectivement, pour ceux qui se
Oui, on
souviennent
n'était
du
pas loin du
mulot.
mulot de Jacques Chirac, c'était assez drôle. Il a gardé son calme et surtout, il n'a rien nié. Il n'était pas dans le déni et il n'était pas dans le refus de changer les choses, parce que je pense qu'il est prêt, et il s'est montré prêt, à ce que le rapport de force entre Facebook et les gouvernements se trouve modifié par l'accident qu'il y a eu entre Facebook et ses utilisateurs, la rupture de confiance. Il a admis cette rupture, il n'a pas nié.
C'est effectivement un point intéressant et oui, il a eu un comportement très respectueux et il a été très très bien préparé par son équipe à être dans ce savant dosage entre l'humilité et la fermeté de
Alors,
ses
l'humilité,
convictions.
c'est peut-être un mot un peu trop fort, là. C'est quand même une posture. Il n'était pas en position d'être arrogant ou d'être pimpant comme il est dans ses keynotes habituelles. Mais disons un minimum de réserve.
Oui, et comme on l'a dit dans l'épisode précédent avec Alexandre, en fait, il y a une certaine théâtralité de ces auditions qui sont, on va dire, une partie importante du jeu politique américain.
De la démocratie américaine,
Tout
vraiment,
à
hein,
fait,
c'est.
tout à fait. Et il a eu un comportement tel qu'on pouvait l'attendre. Après, je te rejoins complètement sur le fait qu'il a botté en touche sur beaucoup de ses réponses. Mais
Alors, je voulais
oui,
ajouter quelque chose,
vas-y.
c'est très important parce qu'il s'est comporté, on ne le sent pas assez ici, mais moi je l'ai lu en lisant la presse américaine, il s'est comporté comme un citoyen américain, avant tout. Il a voulu envoyer ce message en disant oui, je suis le PDG de Facebook, oui, j'ai monté cette entreprise, mais avant tout, je me conforme aux règles de mon pays, et ça, je pense que le message était très fort.
Tout à fait. C'est encore une fois le minimum syndical, si j'ose dire, qu'il pouvait faire. Il avait et lui-même et par la voix de Sheryl Sandberg, sa numéro 2, envoyé des signaux par rapport à ce que tu disais sur peut-être pas encore l'inversion, mais on va dire un certain rééquilibrage du rapport de
Un
force
rééquilibrage, ouais.
entre Facebook et les réseaux sociaux en général et le gouvernement américain. Lui-même dit maintenant de façon beaucoup plus tranquille qu'avant qu'il invite pratiquement de la régulation à venir et expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et ne faut pas faire. Ça, c'est très nouveau. Il a quand même expliqué aussi aux sénateurs et représentants que dès maintenant, ils allaient du côté de Facebook être beaucoup plus sourcilleux et vigilants par rapport à tous les groupes qui viennent faire de la publicité politique sur le réseau. On doit quand même
Effectivement.
ou ne pas oublier que tout le point de départ de ce tech lâche, c'est l'utilisation par les forces de Donald Trump de Facebook pour faire du micro-ciblage dans les États où il a réussi à gagner un petit peu contre toute attente. Donc, de ce point de vue-là, ça a été une audition assez réussie, mais je veux quand même que les auditeurs et auditrices restent sur l'article qu'on partage, qui est le fait que ce n'est que le début. Hein, dans cette, entre guillemets, guerre, si tant est qu'on peut le qualifier ainsi, entre Zuckerberg et le Congrès américain, la première bataille, ça s'est bien passé.
Bah, c'est plus une convocation, on lui a demandé de se comparaître.
Tout à fait. Mais il était plus ou enfin il était pas sous serment, mais on va dire qu'il fallait pas qu'il en sorte des énormes. Je voudrais passer maintenant au deuxième lien que tu partages avec nous, qui est un lien intéressant de Siècle Digital par rapport finalement à tous les autres potentiels contrevenants au terme de service de Facebook. Il n'y a pas que Cambridge Analytica, et là il s'agit de QBU.
Alors oui, il y a une nouvelle affaire, ça date de 10 avril, c'est révélé par CNBC, la chaîne américaine, qui fait observer qu'il y a une nouvelle affaire de collecte illégale de données. C'est la firme QBU, qui est aussi une firme spécialisée dans l'analyse des données. Donc en fait, ça va en escalade. Il n'y aura pas que Cambridge Analytica, il n'y aura pas que QBU. Zuckerberg n'est pas du tout sorti d'affaire.
On est face, là, je pense, à avec Cambridge Analytica et QBU, à ce qu'on peut appeler la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle souvent sur Facebook des très gros annonceurs, les Procter et compagnie, qui, dès les premiers soubresauts, ont commencé à dire soit on appuie sur le bouton pause, soit carrément on arrête de faire de la publicité.
Ouais.
Et tout le monde se dit, oh là là, ça va être terrible pour eux. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, c'est devenu le média numéro 1 pour les petits annonceurs, notamment grâce au fait de pouvoir croiser les données de localisation et les données de centre d'intérêt. Donc on
D'ailleurs, oui. À cet égard, excusez-moi, je vous interromps, pour vous dire que l'algorithme de Facebook a lui-même bien mis ça en ordre, puisqu'il favorise les informations à portée locale. Donc c'est aussi une manière de privilégier les annonceurs locaux et donc de rendre dépendants un nombre bien plus important de petits annonceurs et qui auront moins de pouvoir que des grands annonceurs.
Exactement, c'est cette atomisation des petits annonceurs qui fait le bonheur du réseau, de la plateforme. On peut parler là de Facebook comme les pages jaunes 2.0 parce que on voit effectivement que c'est vraiment là d'où viennent les revenus et les profits. On va passer maintenant au troisième lien qui est assez intéressant parce que le TechLash, ce n'est pas que Facebook, c'est aussi Google et c'est aussi le contexte européen. On a un article qui est relayé par MSN, mais de La Tribune, qui reparle de Margrethe Vestager, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, donc qui est la commissaire européenne à la concurrence, qui dit garder une option ouverte est à l'ordre du jour pour un éventuel démantèlement de Google. Alors là, tu vas nous donner un petit peu plus ta vision là-dessus, parce que c'est quand même une info de taille.
Oui, alors le démantèlement de Google, enfin de la firme mère Alphabet, dont Google fait partie, étant donné qu'en fait, ça part du présupposé que le démantèlement sera plus favorable à la concurrence que la surconcentration. Donc, comme c'est le cas aujourd'hui. Normalement, Google devrait pouvoir être scindé en plusieurs firmes pour pouvoir laisser place à de nouveaux venus, au lieu d'occuper une position monopolistique qui est aussi favorable à la revente des données et à la concentration des données privées dans les mains d'un même acteur.
Alors là, on rappelle que il y a eu une amende historique de 2,2 milliards d'euros en juin à cause de la favorisation du comparateur de prix. C'est ça en fait l'abus de position dominante. Donc ça rappelle complètement Microsoft dans les années 90, quand il avait pour la première fois couplé Explorer, son navigateur, et Windows. Là on voit que l'Europe finalement se met un petit peu dans le même sillage.
Oui, alors le problème c'est l'Europe. L'Europe, encore faudrait-il qu'elle parle d'une seule et même voix, puisqu'il y a plusieurs États, on n'est pas dans une configuration fédérale comme c'est le cas du gouvernement des États-Unis. Donc, comment légiférer et comment faire agir Google sur la question de l'éventuel démantèlement? Parce
Avec
que
en
pour l'instant, ouais.
oui, avec en plus le problème finalement d'être juge et partie par rapport à ses consommateurs, mais sans offrir d'alternative. L'article mentionne le français Quant, qui
Franco-allemand, ouais.
franco-allemand, qui maintenant s'est étendu dans plusieurs pays, mais qui ne revendique que quelques dizaines de millions. Là, je vois 58 millions d'utilisateurs uniques par mois. Certes, c'est en progression par rapport à l'année dernière où il n'était que 20 millions, mais on est quand même loin du compte.
On est loin du compte, mais c'est vrai qu'ils sont Quant est de plus en plus mis en avant par les médias, comme par exemple dans Oui Demain, il y avait une fiche entière pour proposer en fait aux utilisateurs de reprendre aussi de la voix et de peser de tout leur poids politique en utilisant davantage Quant plutôt que Google pour faire leurs recherches au quotidien.
Alors, dis-nous un petit peu comment s'est perçu ce type d'action en justice au niveau européen dans le contexte français et européen. Est-ce que, à part ce papier, c'est relayé avec tout le pouvoir que ça implique ou un petit peu noyé, on va dire, dans la masse?
Alors, c'est un petit peu noyé dans la masse parce que les lecteurs ont une vision de l'Union européenne qui est très très floue, très op... on a l'impression d'en fait d'une grande administration opaque, étant donné que on n'est pas du tout comme un mode gouvernemental identique à celui des États-Unis. Donc l'Union européenne, pour la plupart des lecteurs, c'est une bureaucratie, c'est des gens qui n'ont pas été élus directement ou même indirectement par le peuple. Donc, dès qu'on parle Union européenne, ça a l'air d'être assez abstrait. Donc, les médias le relayent avec une certaine distance.
Alors, c'est intéressant parce que je l'ai dit plusieurs fois dans différents épisodes, on a l'impression, et il y a un très bon papier que je mettrai en annexe aussi de ce podcast d'aujourd'hui, de Axios, donc qui est un média assez nouveau sur le paysage américain, qui explique que Silicon Valley, Google et notamment Facebook redoutent beaucoup. Le marteau entre guillemets de l'Europe parce qu'ils y voient une volonté beaucoup plus affirmée et assumée de légiférer que du côté américain où on les sent voulant faire quelque chose mais n'ayant pas encore choisi la voie qui allait être celle de la régulation. C'est un petit peu ce
Oui,
qui est
parce que la
ressorti.
voie de la régulation, on a une culture européenne très forte de la régulation, hein, quand même de l'État, du pouvoir de l'État, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même une nation qui s'est construite contre un État et pour proposer un modèle di différent. Donc là,
Exactement.
on touche vraiment à l'histoire institutionnelle des États aux groupes d'États.
Et c'est un excellent point en conclusion de cet épisode pour dire qu'on a effectivement deux visions des deux côtés de l'Atlantique avec donc les mêmes acteurs, souvent américains, qui se retrouvent traités de manière assez différente d'une rive à l'autre. Encore une fois, un grand merci, Clara, pour ta participation de cette semaine.
Merci à vous.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.